EMCI TV vous présente l'émission Teach avec Atoms. Un temps d'enseignement et d'étude de la parole de Dieu afin de faire de vous des disciples et vous aider à grandir dans votre foi.
Bienvenue sur Teach, votre mission d'enseignement et de maturité spirituelle. La parole de Dieu est notre nourriture. C'est par elle que nous grandissons dans notre relation avec Dieu et que nous répandons le parfum, le bon odeur de Christ partout dans le monde. Cette émission a été conçue pour vous permettre d'apprendre et d'appliquer intentionnellement la parole de Dieu comme un disciple de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons commencer une toute nouvelle série. De quoi allons-nous parler? Il a plu au Seigneur que nous puissions toucher ce sujet que j'ai intitulé ici « Les caractéristiques de l'Église vivante ». Une Église locale vivante selon Dieu devrait ressembler à quoi? Il s'agit ici de prendre quelques points qui ont fait leur preuve justement dans la Bible et dans l'histoire de l'Église comme étant des points forts d'une Église locale qui grandit selon la pensée du Seigneur. Ce n'est pas une liste exhaustive, mais je parlerai de 12 points. Et pendant toute cette semaine, nous aurons le temps de regarder ça de près et de grandir avec chaque chose qui sera expliquée là. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Comprenez aujourd'hui le vrai sens de l'Église locale. Qu'est-ce que c'est que l'Église locale? Commençons par là. Avant de parler des caractéristiques, c'est quoi une Église locale? Vous devez savoir qu'aujourd'hui, quand on parle de l'Église chrétien ou même non chrétien, on se donne des définitions assez dérangeantes, parce qu'on voit comment on dévalue le sens et la valeur de l'Église. Pour certains, l'Église, ce n'est qu'un bâtiment. Pour d'autres, ce n'est qu'une rencontre d'une heure. C'est comme un spectacle du dimanche. Pour d'autres, même, exagèrent en disant « L'Église, il ne faut pas aller dans un bâtiment, ce n'est que ton cœur qui est l'Église. » Alors, il y a des mélanges, de l'extrémisme, chacun tire un peu le drap de son côté. Mais que dit la Bible sur ce qu'une Église est en réalité? La pensée de Dieu a toujours été, dans la parole, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, d'avoir un peuple qui lui appartient à lui seul, de sortir ce peuple du milieu de ce monde qui a commencé à se pourrir et d'avoir un peuple qui lui est propre. C'est pour cette raison qu'il a choisi un peuple dans le monde entier, appelé le peuple d'Israël, qu'il a conduit et s'est révélé à travers ce peuple pour que le monde entier comprenne sa nature. Cette même pensée est celle qui a créé aussi l'Église. Avoir un peuple qui sort de ce monde pour être le moyen par lequel Dieu se révèle à tous et la porte par laquelle les autres vont découvrir l'amour et la grandeur de Dieu. Lisons pour cela quelques textes qui vont nous permettre déjà de comprendre la nature de l'Église. Qu'est-ce que c'est que l'Église? Matthieu chapitre 16, verset 19, verset 16 à 19 plutôt, Matthieu chapitre 16, verset 16 à 19, on va lire. Simon Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprenant la parole lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Un autre texte, celui de Philippiens, chapitre 2, versets 1 à 2. Philippiens 2, 1 à 2. N'avez-vous pas trouvé en Christ un réconfort, dans l'amour, un encouragement, dans l'esprit, une communion entre vous? N'avez-vous pas de l'affection, de la bonté les uns pour les autres? Rendez donc ma joie complète. Tendez à vivre en accord les uns avec les autres. Et pour cela, ayez le même amour, une même pensée et tendez au même but. Ces deux textes que nous venons de lire, le premier parle de Jésus, qui parle justement à Pierre, au moment où il venait de leur poser la question « Qui dit-on que je suis ?» Pierre répond, il dit « Tu es Christ, le Fils de Dieu. » Et Jésus qui parle à Pierre, il lui dit « Ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses. C'est mon Père qui est dans les cieux. Et tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Jésus, là, dit clairement qu'il bâtit pas une église, il bâtit son église. On y revient tout à l'heure. Le deuxième texte, c'est Paul qui parle aux Philippiens et qui les rappelle, il leur dit combien ils devaient être dans l'unité, comment ils devaient être travailler en collaboration. Il a dit, si je vous vois un, cela va rendre ma joie complète. Alors, il commence par leur dire combien a-t-il pas d'affection dans le Seigneur, combien a-t-il pas d'encouragement, de l'unité par le Saint-Esprit qu'on a reçu. Dans ces deux textes, vous trouvez, peut-être pas en français, mais dans la langue biblique, le grec, deux mots qu'on utilise pour bien définir la nature d'une église. La nature de l'église a donc deux niveaux dans la Bible. Il y a premièrement ecclésia et deuxièmement koinonia. Deux niveaux dans la nature de l'église dans la Bible. Ecclésia. Ecclésia, c'est le mot que Jésus a utilisé tout à l'heure dans Matthieu. Il a dit à Pierre, « Je bâtirai mon ecclésia. » Je vais expliquer ce mot-là tout à l'heure. Et puis, dans Philippiens, le mot « koinonia », c'est le mot que Paul est en train d'utiliser quand il dit « N'y a-t-il pas d'encouragement, n'y a-t-il pas d'affection, n'y a-t-il pas d'unité d'esprit entre vous ?» L'Église, par nature, est donc « ecclésia » et aussi « koinonia ». Vous allez le découvrir tout à l'heure. L'Église est donc par nature « ecclésia » et « koinonia ». Qu'est-ce que ça signifie ? Le mot grec « ecclésia » qui est utilisé ici dans la Bible pour parler de l'Église comme Jésus en a parlé, c'est traduit littéralement comme ça dans l'Église plusieurs fois, mais ça vient de deux mots « ekkaleo » qui veut dire « or »,« appelé », ceux qui sont appelés « hors d'eux », ce qui signifie « ceux qui sont mis à part », ce qui est sanctifié, ce qui est séparé de reste. Ecclésia signifie mis à part, séparé, sanctifié, mis de côté, appelé hors d'eux. Plus de 114 fois, vous trouvez ce mot apparaître dans le Nouveau Testament. L'Église, c'est le rassemblement de ceux qui sont appelés hors du monde. C'est le mot ecclésia ici. Jésus a dit, sur cette parole, je bâtirai, sur cette pierre, a-t-il dit, je bâtirai mon Église. En fait, dans le mot, dans ce texte de Matthieu, vous avez deux fois le mot « pierre ». Il lui dit « tu es pierre » et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les deux mots « pierre » ne sont pas les mêmes. Le premier mot « pierre », c'est celui du nom de pierre, c'est « face ». Et le deuxième « pierre », c'est le mot « roc », c'est celui pour le rocher. Donc le premier, c'est « petros » qui fait « pierre » en grec. Et puis le deuxième mot, c'est « petra » qui fait « rocher »,« roc ». Donc, il dit à Pierre, tu es Pierre, et sur ce roc ou sur ce rocher, je bâtirai mon église. Littéralement, plusieurs théologiens s'entendent à croire que Jésus lui dit très bien que toi, tu es Simon, tu es fils de Jonas, tu es Pierre, mais sur cette vérité que tu viens de prononcer, qu'il s'agit ici de dire que je suis le Christ, sur cette vérité-là, qui est cette roc-là, ce rocher-là, je bâtirai mon église. Mon église. Parce que, croyez-le, quand Israël est sorti de l'Égypte, quand Dieu a distingué Israël de tout le peuple, la sortie de l'Égypte pour pouvoir le conduire, il était déjà en train de bâtir ce que la plupart des étudiants de la Bible aiment appeler l'Église du désert. Dieu s'était déjà sorti un peuple hors du monde pour pouvoir être tout à lui. Maintenant, Jésus, quand il arrive, il dit « mon Église ». Maintenant, ce n'est plus l'Église de Moïse, c'est « mon Église ». Je veux bâtir aussi mon propre peuple sorti du monde, basé sur cette vérité selon laquelle je suis le Christ. Je vais les sortir hors du monde et les appeler à moi. Vous n'êtes pas juste sorti, mais vous avez été appelé. C'est ça, Ecclésia. Appelé hors d'eux. Christ nous a appelés. C'est pourquoi la Bible en parle. Jésus dit, ne viens à moi si le Père ne l'attire. Dieu nous appelle du monde et nous sortons. Et cette assemblée constituée par les sorties du monde, c'est ce qu'on appelle une église. Mais il y a aussi le deuxième mot, koinonia, que j'ai promis ici. Koinonia n'a pas une seule façon de traduire cela. Il y a plusieurs façons de traduire l'idée de koinonia. Mais vous trouverez l'idée de communion, regroupement, partage et même participation. Qui dit koinonia voit ici l'idée que ces gens qui sont sortis d'eux se mettent maintenant ensemble pour qu'eux-mêmes puissent communier. Le fait d'être sorti du monde, d'avoir été appelé par Dieu, se fait individuellement. Chacun de nous sort du monde, chacun de nous est appelé par Dieu et chacun de nous sort individuellement. Mais alors vient le fait d'être ensemble et de bâtir cette famille. De bâtir cette famille. Maintenant, on fait le koinonia. Tous ceux qui sont sortis font partie de l'Église. Une fois sortis, ils doivent maintenant se rassembler. C'est pourquoi j'insiste, frères et sœurs, le fait que vous soyez sauvés, vous faites partie de l'Église, mais vous devez communier avec les autres. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que d'habitude, on utilise maintenant deux termes pour pouvoir, pas embellir, mais pour pouvoir simplifier ces deux concepts. On aime utiliser le mot « Église universelle » et « l'Église locale ». L'Église universelle se rapproche de l'idée de « Ecclesia », qui veut dire « l'assemblée de tous ceux qui sont appelés hors du monde ». Quand Dieu les appelle, ils ne viennent pas tous en un même endroit. Certains sont appelés en Asie, d'autres sont appelés en Afrique, en Amérique. Tous ceux qui ont écouté le message de Christ et qui ont donné leur vie au Seigneur sont sortis du monde, ils sont sortis du monde de partout, dans le monde, dans l'univers. C'est pourquoi on aime appeler ça l'Église universelle. Mais après, quand ils doivent se rencontrer pour communier, hormis le fait que tous, en esprit, nous sommes devant le Seigneur, mais il y a des communautés, des regroupements où nous devons faire notre participation. C'est ça, koinonia. Ce regroupement où nous participons dans certains secteurs bien géographiques, c'est ce qu'on appelle ici un koinonia, ou alors le terme église locale. Si vous voulez, l'église locale est composée des membres de l'église universelle d'un même secteur, d'un même coin, ou qui se identifient au même message ou bien à la même façon de faire. Aujourd'hui, au XXIe siècle, on a l'église en ligne. Le fait d'être une église locale n'est plus le fait seulement physiquement d'être un endroit. L'église locale, elle, émet à partir d'un endroit, mais des frères et sœurs qui sont partout dans le monde se connectent à cette église dite locale. Koinonia avec cette église-là, dite locale. Alors, la question qui se pose maintenant, c'est que fait l'église dans une église locale quand il y vient? Maintenant qu'on a compris qu'est-ce que c'est qu'une église ecclésia, église koinonia, église universelle, église locale, que fait l'église locale? Qu'est-ce qu'on vient comme participation, regroupement? Ce sont ces mots-là qui identifient la pensée de koinonia. Je vais vous lire deux passages de Matthieu. Et ça va me permettre de résumer cinq choses qui sont des choses qu'on doit trouver dans toute église locale lorsqu'on veut y aller. C'est sur base de ça, justement, que je parle ici d'une église dite vivante. Mais après, durant toute la semaine, on aura le temps d'en développer près de 12 autres éléments qui font et qui manifestent qu'une église est vivante selon la volonté de Dieu. La mission de l'église peut se découler en ces cinq choses dans les textes de Matthieu. Le premier texte, Matthieu chapitre 22, versets 37 à 40. Matthieu chapitre 22, versets 37 à 40. Je vais lire avec vous. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Jésus ici est en train de répondre à la personne qui pose la question, quel est le plus grand commandement? Alors, il lui répond en disant que le plus grand commandement, c'est comme un commandement jumeau, commandement à deux têtes, aimer Dieu et aimer son prochain. Il dit que c'est ça le plus grand commandement. C'est tout ce que Dieu voulait depuis tout ce temps qu'il s'est révélé à Israël. On parlerait de toutes les 73 lois, on parlerait toutes des 10 commandements, mais tout ça se résumerait, selon Jésus, en un seul commandement à deux têtes. Aimer et aimer Dieu et aimer son prochain. Deuxième texte, Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus, au jour de son ascension, il va monter devant les disciples, il va s'en aller spectaculairement. Et pour ça, il leur laisse ses paroles, il donne un ordre en disant, allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est ce que nous sommes en train de faire justement, ici aussi à travers Teach. Et dit, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. On voit d'un côté Jésus nous montrer le plus grand commandement, la base de toute la parole de Dieu. Et de l'autre côté, nous donner un ordre. Je veux dire un ordre, mais dans lequel il y a des sous-ordres, c'est-à-dire il y a des compartiments à exécuter. Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. En combinant ces deux textes, j'aimerais vous suggérer, il y a beaucoup plus d'autres textes, mais le temps qui nous est toujours imparti me permet de lire au moins deux textes pour que ça soit équilibré. Avec ces deux textes, permettez-moi d'en arriver à cinq choses que vous trouverez souvent ou que vous devrez trouver dans une église locale. Quand vous voulez aller dans une église où vous devez participer, koinonia, participer, pas observer, pas fréquenter quelquefois. Quand on va dans l'église locale, on y va pour participer, encourager, communier avec les autres. Quand vous voulez aller dans une église locale, voici cinq choses que vous trouverez comme la mission fondamentale de cette église, quel que soit son nom. Moi, je prie dans l'assemblée, notre église s'appelle Phila Cité d'Exaucement, et quand je suis ici, bien sûr, au Canada, je fréquente la plénitude. Ce sont des noms, tout ça. Ce sont des noms d'églises, qui ont des missions, telle église a telle mission, mais aucune des missions de ces églises ne devrait aller en l'encontre de la mission que Jésus nous a donnée à tous. On articulerait la mission de façon particulière, d'après le coin et les défis. Il y aurait l'emphase sur un point ou un autre. Mais ces cinq choses que je vais vous citer font partie de notre description de tâche en tant qu'église locale à l'endroit où l'Éternel nous place. Vous savez mieux que moi que le concept de l'endroit est devenu un peu plus large. Il ne s'agit plus juste d'un endroit physique. Il peut s'agir d'un espace, des réputations Internet. Il peut s'agir d'un espace en ligne maintenant. Mais le nombre de personnes que vous arrivez à captiver d'abord en ligne, que vous arrivez à attirer quand vous êtes sur les réseaux sociaux, ou le nombre de personnes que vous arrivez à attirer quand vous êtes dans un endroit bien précis, quelque part dans le monde, ces gens-là viennent pour, entre autres, 5 choses. Ma liste est-elle exhaustive? Non. Mais je suis sûr que si vous citez une chose, vous pourrez facilement se retrouver dans ces 5 choses que je vous propose. Premièrement, toute église locale se doit à l'évangélisation, basée sur ce texte. Allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est la base de l'église locale. Nous sommes un endroit où les disciples se rencontrent pour faire des disciples. Nous sommes un lieu où on se voit pour pouvoir attirer d'autres. Deuxièmement, communion fraternelle. Nous nous rencontrons pour communier. La Bible dit, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant. Vous voyez, c'est participe présent. Au même moment que vous faites des disciples, une relation doit s'établir. Ce n'est pas pour un jour. Vous devez aussi avoir l'occasion de pouvoir les baptiser en même temps. Vous n'allez pas vous rencontrer une fois et partir. C'est une communauté qui se crée. La Bible insiste encore en disant, ils grandissaient dans les fractions de pain, dans la communion fraternelle, acte des apôtres. Quand on vient dans l'église, c'est pour être en contact avec les gens. J'ai souvent été scandalisé, même choqué quand j'entends des gens sortir de l'église en disant « Moi, je vais dans cette église-là, mais je viens juste chercher mon Dieu. Je viens, j'adore, je glorifie les Seigneurs. Après, je prends mon sac, je sors. Je n'aime pas être attaché aux problèmes de qui que ce soit. » Et en disant comme ça, on se considère être plus juste. Et on s'est dit, donc c'est pour cette raison que j'ai pas de problème dans cette église. Quand on parle, qu'on raconte des racontards, tu n'entendras jamais mon nom paraître là-dedans parce qu'en fait, je viens, j'écoute la prédication, je prends mes clics et mes claques et je pars. Tu n'es pas en train de koinonia. Koinonia, c'est participer, communier. La communion fraternelle fait partie de nos rencontres, elle fait partie du culte en fait. C'est pour cette raison, quelquefois, pendant le culte, les pasteurs ou les modérateurs vous disent « Saluez le voisin, dites au voisin », parce que la communion fraternelle fait partie de la vie de l'Église. La foi chrétienne ne peut pas se vivre seule. Vous avez besoin des autres et les autres ont besoin de vous. Un jour, je faisais réfléchir quelqu'un qui m'a parlé justement, comme je viens de dire tout à l'heure. J'aime autant venir au culte, m'en aller après, sans contact avec qui que ce soit. Je ne vais pas me chercher des problèmes. Je lui ai dit « Eh bien, c'est trop tard. » Les problèmes, il y en a déjà parce que vous êtes sur terre et vous vivez avec des êtres humains. Et puis, je lui ai fait réfléchir en lui disant, donc quand vous quittez les cultes en vous disant, je ne vais parler à personne, je ne vais pas avoir des contacts, c'est pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'en fait, voilà, je ne veux simplement pas qu'il y ait des problèmes. En fait, vous nous dites que si vous êtes avec nous, nous allons vous créer des problèmes. C'est nous les mauvais. Donc, vous nous donnez l'impression que vous nous mettez à côté. Et si c'était l'inverse? Et si c'était nous, en fait, qui nous disons que tu es tellement problématique qu'on ne préfère pas t'avoir à nos côtés? Frère, j'aimerais vous encourager, sœur, quand vous allez koinonia, vous allez communier avec les autres, dites-vous qu'il y aura toujours de problèmes. Parce que les êtres humains sont comme ça. Parce que d'abord, principalement, vous n'êtes pas saints non plus. Vous allez à l'église pour vous améliorer. Vous causerez des problèmes malgré vous, de fois. Malgré vous. Sans le vouloir. Vous causerez des problèmes par excès de gentillesse. Des fois, des qualités qui sont exagérées deviennent des défauts. Ça devient une distorsion des qualités. Vous causerez des problèmes. Vous serez gentil avec un autre dira pour qui il se prend. C'est normal. Quand nous communions, ça se passe comme ça. Savez-vous que dans les Actes des apôtres, allez, ça c'est la jeune, la nouvelle église. Peut-être que vous vous direz, Jésus est parti il y a longtemps, c'est pour cette raison que les gens ont mené les péchés dans l'église, c'est pour cette raison que la communion fraternelle est devenue difficile et qu'il y a des conflits. Allez, on est le début de l'église. Les Saint-Esprit, Éphésiens, les gens sont remplis. Et quelques temps après, les veuves des Grecs viennent se plaindre, se disent... nous, au moment de partager les repas, on dirait qu'on ne nous donne pas à nous suffisamment. On ne donne que aux veuves des Juifs. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un conflit tribal, un conflit ethnique, national. Ils disent, nous sommes tous venus pour Jésus, mais apparemment parce qu'on est à Jérusalem, parce qu'on est chez vous autres, les Juifs, on était tous venus pour Jésus. Mais maintenant, vous êtes en train de vous la jouer genre, c'est notre Jésus, hein? Parce qu'on a l'impression que même pour la distribution des nourritures réservées aux veuves, vous en donnez plus aux Juifs que vous en donnez à nous. Je m'imagine Pierre en train d'écouter un conflit comme ça. Ah, oh, il a mal à la tête en train de dire, oh, franchement, j'ai autre chose à faire. Mais les êtres humains sont comme ça. Je me suis toujours demandé, qu'est-ce qui se passait? On donnait deux pains aux veuves grecques et trois pains aux veuves juifs. J'ai toujours voulu savoir qui a commencé cette affaire, qui a créé ce conflit. Mais qu'à cela ne tienne, les femmes sont venues se plaindre qu'on ne distribuait pas bien. Et on a ici les personnes qui ont reçu fraîchement le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Les gens qui, peut-être certains d'entre eux, ont vu Jésus physiquement. On est à la première église, mes amis. Mais ça n'a pas empêché que lorsqu'ils essaient de communier, il y ait des conflits. Si vous cherchez une église sans conflit, dans laquelle vous n'aurez aucun problème avec qui que ce soit, eh bien elle existe. Mais elle est ecclésia. C'est l'église universelle où on ne se voit pas, mais on est tous unis en Christ. Eh bien elle existe celle-là. Là où il n'y aura pas de conflit, vous n'aurez pas de problème. Elle existe. Le Seigneur la rassemblera à la fin et ira avec elle. Mais quand il faudra participer, communier, encourager les uns les autres au niveau koinonia, il y aura toujours de conflits. Tous les épîtres de Paul sont remplis de ce conflit. Évangélisation, communion fraternelle, ministère. Troisième point, ministère, qui simplement dire servir. L'église est un endroit où chacun exerce le ministère, sert le Seigneur et les autres. C'est pour ça que Jésus dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est le résumé de toute la loi, de toute la parole. L'église, c'est un endroit où on s'aime par la communion fraternelle, mais on se sert aussi les uns les autres. N'est-ce pas que Paul répète chaque fois ces termes comme « confessez-vous les péchés les uns les autres », que chacun de vous regarde l'autre comme étant au-dessus de lui-même. L'église est un lieu de service où chacun met son talent et ses dons spirituels au service collectif, au service de l'église, au service de la communauté autour de soi. On est là pour servir, pas pour être servi. Beaucoup de gens vont à l'église locale. Un jour, j'ai passé dans l'assemblée, j'ai vu une dame qui est venue avant de s'asseoir. Elle a regardé s'il y avait de la poussière sur sa chaise. Elle était toute bien habillée, là. Elle a regardé, et puis elle a sorti un mouchoir. Elle a un peu épuisséité, et puis elle s'est mise. Je l'ai regardée, je lui ai dit, « Ma sœur, qu'est-ce qu'il y a ?» Elle m'a dit, « Bon, je voulais vérifier si c'était un peu sale. » Et je lui ai dit, « Qui devait arranger ?» Elle a fait un petit moment de silence en disant, « Mais il y a normalement des gens qui font ça. » J'ai dit, « Quand cette église a commencé ?» On n'a pas commencé avec une ressource humaine dédiée. Ce sont des frères et des sœurs comme vous qui balayent cet endroit. Et quand vous venez à l'église, vous ne devez pas sous-entendre qu'un service vous a déjà été rendu. Ne participez pas à un culte comme à un concert. Vous venez à un culte. Cette église-là, c'est votre église. Posez-vous la question, en quoi je sers et à quoi je sers? Quatrièmement, la maturité. Une église locale est définie dans sa mission comme un lieu de maturité. On vient pour grandir. Je ne cesse pas de vous rappeler qu'on doit grandir ensemble. Jésus dit, enseignez-leur à observer. C'est ça, grandir. Il y a d'un côté l'enseignement, on s'explique, et après, l'exécution, la pratique de cela. Enseignez-leur à pratiquer ce que je vous ai prescrit. Et en fin de compte, l'Église, c'est aussi un lieu d'adoration. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force. Nous venons à l'église pour adorer ensemble le Seigneur, vivre un temps de culte. Un moment où certains frères et sœurs chantent, on chante ensemble, on entre en chœur, on adore le Seigneur, on exprime notre amour à Dieu. Il est vrai, vous le savez mieux que moi, qu'aujourd'hui quand quelqu'un dit « je prie dans telle église », il veut simplement dire « je participe au culte d'adoration de telle assemblée ». Maintenant, vous venez de comprendre que l'église locale, ce n'est pas juste participer à un culte d'adoration. Il faut aussi grandir, servir, communier avec les autres et aller gagner d'autres personnes à Christ. Ce sont ces cinq choses qui sont la mission d'une église locale. À partir de demain, nous allons commencer à apprendre les 12 caractéristiques d'une église vivante. Ça va être intéressant. Vous n'avez pas envie de rater cette série-ci. Ça vous poussera à aimer votre assemblée et surtout à comprendre votre responsabilité en tant que disciple de Christ au niveau local de votre assemblée et au niveau universel. Pour l'instant, je vous dis à demain. Let's teach. Grandissons ensemble.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Teach sur emcitv.com.